17h. Vous écoutez l'Outaouais maintenant avec Louis-Philippe Brûlé, votre source pour rester branché au 104.7 Outaouais.
Bon, c'est maintenant confirmé, il y aura bel et bien une saison de la Ligue canadienne de football cette année. Calendrier officiel qui a même été dévoilé aujourd'hui, ce qui fait du collègue Marc Legault un homme très heureux aujourd'hui. Salut Marc!
Fini chômage!
C'est terminé, écoute, tu vas pouvoir faire tes paiements d'hypothèque de ta grosse maison.
Exactement, ça a commencé à être rough un peu. Je suis bien content, effectivement. C'est une bonne nouvelle, LP. Et puis, c'est une bonne nouvelle pour plusieurs personnes. Puis je mentionnais ça ce matin avec Michel Langevin. Je sais que la Ligue canadienne, pour certains, c'est un sous-produit. C'est un produit de Ligue mineure. Puis ils n'ont pas tort, dans le sens que la grosse Ligue, c'est la NFL. Le football canadien, c'est un circuit mineur. Ce qu'il faut pas oublier, par contre, c'est 23 000, 24 000 personne en moyenne qui assiste au match à travers la Ligue canadienne de football. C'est des codes d'écoute lorsqu'il y a la Coupe Grey de 3, 4, 5 millions de téléspectateurs. C'est un des plus gros événements télévisuels au Canada annuellement. C'est toujours comme ça. Puis même les codes d'écoute pendant les matchs de saison régulière, c'est très, très bon. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont très de bonne humeur ce matin. Faut pas oublier là, que ça va faire tout près de 2 ans qu'il n'y aura pas eu de match de la Ligue canadienne de football. Et moi, s'il n'y en avait pas eu cette année, je pense que c'était la fin. Du moins, la fin de cette ligue-là, comme on la connaît. Elle serait peut-être revenue sur une différente forme, mais ça aurait été totalement différent. Donc, je pense que c'est une très, très bonne nouvelle.
Bon, ben effectivement, parce que le premier match local à la place TD, ça va être le 28 août contre les Lions de la Colombie-Britannique. Et le dernier match, c'était le 1er novembre 2019. Alors, ça fait un méchant bout. Mais avant ça, le Rouge et Noir va jouer sur la route à Edmonton le 7 août contre les Elks, parce que les Eskimos n'existent plus, Marc.
Non, j'ai le goût de te dire que ça va être un moment historique parce que les Eskimos, c'est la franchise forte de la Ligue canadienne de football. C'est la franchise historique de cette ligue-là. Et avec ce qui se passe, on l'a vu avec les Redskins de Washington, entre autres, et tout ça. Donc, le nom Eskimos n'existe plus. On a rebaptisé cette franchise-là les Elks. Donc, je sais pas, c'est un genre de chevreuil. Toi qui connais plus la pêche par la chasse, je sais pas si
c'est si vraiment la chasse
comme tel. Non, OK, bon, on va oublier ça. Ceci étant dit, on y va avec Elks, pourquoi? Parce que c'est le diminutif de Esk. Hein? On criait ça dans les gradins à Edmonton. Let's go Esk. Donc, avec les Elks, on demeure dans la même palette pour les partisans. Mais ça sera le premier match du Rouge et Noir. Puis d'ailleurs, quand on regarde le calendrier de la Ligue canadienne de football, là, dans les premières semaines, il y a très peu d'équipes de l'Est qui jouent à domicile. Hein? Puis il y a une raison à ça, évidemment. Le premier match à domicile pour une équipe de l'Est, c'est au troisième week-end. Et c'est les Argos de Toronto qui vont recevoir les Blue Bombers de Winnipeg. Pourquoi? Parce que dans l'Ouest, on a déjà dit dans plusieurs provinces que les restrictions là au niveau, les restrictions sanitaires vont être un petit peu plus lousses. Excuse-moi l'expression. Donc, il va y avoir plus de monde dans les gradins. On a déjà parlé de l'Alberta qui, eux, sont prêts à remplir les gradins dès le mois de juillet.
Eux autres, Marc, là, ils font même une loterie. Là. Ils vont atteindre bientôt le 70% pour la première dose. Puis dès qu'ils atteignent ça, ils font tirer $1 million parmi les gens qui ont été vaccinés. Puis il y aura 2 autres tirages d'1 million. Ça fait qu'eux autres, ils veulent s'assurer que ça avance à vitesse grand V. Puis on voit la différence de mentalité. Là, ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on voit aux États-Unis notamment.
Oui, puis tu sais, dans le contexte que c'est mis à part la Colombie-Britannique, puis même on peut ouvrir le toit à Vancouver, donc tous les stades, c'est à l'extérieur, ce qui fait en sorte que je pense que la Ligue canadienne n'a pas le choix de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est une ligue qui a besoin des revenus au guichet. Là, t'as pas de contrat de télé extraordinaire, puis au niveau des marchés, des produits dérivés, puis tout ça, là, évidemment, on n'a pas le choix. On doit avoir des gens dans les gradins, ce qui fait qu'on va jouer beaucoup dans l'Ouest, puis c'est pourquoi que le Rouge et Noir, ben premier match, tu l'as mentionné, c'est le 28 août, donc à la fin du mois d'août, au stade de la place TD. Reste à voir, c'est une saison de 14 matchs, c'est un peu différent, habituellement c'est 18. 14 matchs, pas de match pré-saison, un court camp d'entraînement pour éviter évidemment là, des déplacements qui ne sont pas importants, mais reste à voir qu'est-ce que ça va donner, mais comme je te dis, je pense qu'on va voir un semblant de normalité dans la Ligue canadienne de football. Match de la Coupe Grey, 12 décembre, c'est un peu plus tard évidemment, à Hamilton. Ça peut être froid, ça peut être enneigé puis tout ça, mais c'est pas comme si c'était quelque chose de nouveau au football canadien.
C'est assez spectaculaire quand c'est le cas, de toute façon, un peu imprévisible. Oui, effectivement. Bon, ben, d'un gradin, il se réchauffe autrement habituellement, oui, Marc. Oui. Mais là, tu me confirmes que vous êtes de retour sur nos zones, toi, le coach Piché, puis vous allez faire tous les matchs.
Oui, et puis on a bien hâte, évidemment. On va réétudier l'alignement du Rouge et Noir parce qu'il y a eu plusieurs changements dans la dernière année, en fait dans les deux dernières années. Et puis il y en a plusieurs qui se posaient la question parce que ça a bougé beaucoup dans la Ligue canadienne de football. Je te dirais que la majorité des formations ont signé beaucoup de joueurs, ont été très actifs sur le marché et des joueurs autonomes.
Écoute, c'est drôle que tu dises ça, Marc. Je recevais plein de communiqués des Alouettes de Montréal. On vient de signer lui, on vient d'ajouter tel entraîneur dans notre personnel, puis le marketing, le si, puis à peu près rien, le néant du côté du Rouge et Noir. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter?
Non, il y a une raison à ça, LP, c'est que le Rouge et Noir, avant l'année de la COVID, avait quand même des joueurs signés à plus long terme que plusieurs équipes. Parce qu'on le sait, là, à chaque année, il y a plusieurs les équipes de la Ligue canadienne de football, là, le portrait change drastiquement, mais du côté du Rouge et Noir, on avait quand même un noyau qui était signé pour plus qu'une seule saison. Donc, ces joueurs-là, automatiquement, appartiennent encore au Rouge et Noir, donc vont revenir. Et puis, on a réussi à signer plusieurs des anciens joueurs. On est allé chercher quelques joueurs autonomes, mais surtout l'année d'avant. Donc, et ces joueurs-là vont revenir avec le Rouge et Noir. C'est pourquoi on les a vus un petit peu moins actifs sur le marché. Puis, je regardais le noyau des joueurs, justement, pas plus tard qu'hier. Et c'est quand même assez intéressant. Il faut dire que la dernière année n'avait pas été facile. Il y a eu énormément de blessures. Et surtout, il n'y avait pas de corps arrière digne de ce nom. C'est tellement important dans la Ligue canadienne de football.
On a signé deux corps arrière depuis ce temps-là, si je ne me trompe pas, puis les deux, on ne les a pas vus, là.
Non, on les a pas vus, évidemment. Mais là, on se retrouve avec Matt Nichols. Matt Nichols, c'est un vétéran de la Ligue canadienne de football. Et surtout, il a déjà travaillé avec Paul Lapolice à Winnipeg, qui était son coordonnateur à l'attaque. Donc, l'apprentissage ne sera pas très long pour lui. Il va connaître parfaitement le système, ce qui fait en sorte qu'en début de saison, même, ça peut être avantageux pour le Rouge et Noir d'Ottawa. Mais tu sais, t'as encore les Sinopoli, les Harris qui reviennent comme receveurs de passe. On a signé Jalen Sander. Il est excellent, lui, comme receveur de passe aussi. Donc, déjà là, t'en as trois. Puis il y a quelques autres joueurs là qui sont prometteurs. Donc, il faut pas s'inquiéter, mais évidemment, on sait jamais tant qu'il n'y a pas eu le produit sur le terrain et qu'on n'a pas vu de match. C'est facile comme ça. Mais sur papier, là, c'est pas le désastre que plusieurs personnes
s'attendent. Le nouveau coach, Lapolice, qu'on n'a pas vu non plus, à part un point de presse là, pour la signature de son contrat.
Ouais, non, effectivement. Puis ça en a un autre vétéran de la Ligue canadienne de football. C'est un gars dynamique. Puis c'est un gars qui est porté sur l'attaque. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça risque d'être du football assez intéressant. Faut dire que peut-être qu'avec Nichol, ça sera pas les longues bombes de 55-60 verges comme on a vu avec Harris ou avec Henry Burris, parce que c'est un gestionnaire de match. Donc, c'est un gars avec une passe de 7 verges ici, 12 verges là, mais il est très, très, très... il vise très bien ses cibles puis tout ça. Donc, ça sera pas nécessairement du football spectaculaire, mais ça risque d'être une attaque qui va quand même générer beaucoup de points.
Bon, des petites vites, là. Le départ du demi-défensif, Jean-Philippe Bolduc, qui prend sa retraite, qui a quand même gagné au moins une Coupe Grey, lui-là. Oui. À quel point c'est une lourde perte, ça, Marc?
Ben c'est une lourde perte dans le sens que c'est un gars qui était sur les unités spéciales, assez très bon aussi sur les unités spéciales. Mais tu sais, des gars comme lui, là, il va y en avoir une tonne qui vont se retirer. Pourquoi? Parce que la majorité des joueurs, là, ils ont un autre job. Là. Ils font pas ça à temps plein, le football. Ils font à temps plein quand c'est la saison. Mais une fois la saison terminée, ils ont d'autres professions. C'est pas juste des hobbies. Là. Ils travaillent vraiment. Ils ont étudié dans plein de domaines. Puis tout ça, c'est sûr que si t'arrêtes pendant une année, tu t'es peut-être établi au sein de ton entreprise. Tu as peut-être des projets pour ton entreprise où est-ce que tu travailles. Donc, c'est pas évident de dire, ben là, je vais quitter pour 6 mois. Je vais revenir un peu plus tard. Il y en a qui ont peut-être fait une croix là-dessus. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y en a plusieurs que leur salaire dans leur vrai job, qui n'est pas le football, est supérieur à ce qu'ils font au football.
En plus, que les salaires baissent là, parce qu'ils ont revu l'entente, il y a moins de matchs.
C'est juste 14 matchs, exactement. Donc, je pense qu'il y en a plusieurs, puis on se comptera pas d'histoire, l'LP. On voit les millions qui ont été donnés aux joueurs dans la NFL. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des poursuites au niveau des blessures à long terme, les commotions cérébrales, puis tout ça. Mais c'est parce que les gars font déjà des millions, on leur en donne des millions parce que c'est un sport qui est très, très dur sur le corps. Dans la Ligue canadienne de football, tu fais 60, 65 000, 70 000, 75 000, t'as les mêmes conséquences que ces gars-là dans la NFL.
Faut que t'aimes ça en tabarouette.
Ben, exactement. Ouais. Donc, quand on dit dédié à la cause, puis que ces gars-là, ils jouent pour la passion, c'est bel et bien vrai. Puis c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui vont suivre cette ligue-là pour toujours parce qu'ils sont capables de s'identifier à ces joueurs-là. Mais pour revenir à Jean-Philippe Bolduc, ben faut pas surprendre que des joueurs comme ça peuvent prendre leur retraite dans le contexte où est-ce que tu l'as mentionné. Il a gagné des Coupes Grey, il a eu sa carrière, il a connu ce qu'il devait connaître. Donc, on passe à autre chose pendant que le corps est encore capable d'en prendre, puis on savoure les dernières années.
Ouais. Il y avait des rumeurs de fusion avec une autre ligue, là, je me rappelle plus laquelle. Ouais, ça en est où, cette histoire-là?
Ben, je pense que c'est au point mort parce que la Ligue canadienne, évidemment, lance ses activités sans l'aide de la XFL, sans aucune attache du côté de la XFL. Et la copropriétaire là, avec Dwayne The Rock Johnson, Andy Garcia, elle a mentionné cette semaine qu'on était pour voir la XFL sur le terrain dans les prochains mois. Ce qui fait en sorte que je pense que cette ligue-là va finalement lancer ses activités comme prévu en 2022. Et ce n'est pas les mêmes dates. C'est une saison qui débute après le Super Bowl, tandis que la Ligue canadienne de football joue en même temps que la NFL. Oui. Donc, de jumeler tout ça, ça aurait été un casse-tête total. Il n'est pas dit que dans le futur, on combinera pas certaines activités, mais pour le moment, ça semble être mis de côté.
Peut-être un match d'étoiles, là, l'équipe étoile de la Ligue canadienne contre l'équipe étoile de la XFL.
Règlement, parce que ce n'est pas les mêmes règlements, donc c'est pas évident. Reste à voir. Ce qui va être intéressant, c'est que si la XFL revient, c'est parce que c'est un autre marché pour les joueurs. Et surtout, on a appris il y a deux semaines que la défunte USFL, je sais pas si tu as connu ça, toi, dans les années 80, Donald Trump était un des propriétaires là, des Generals du New Jersey. On signait des gars de la NFL à coups de millions. On allait chercher des agents libres à coups de millions. Puis ça, la ligue a duré 3 ans. C'est un produit intéressant, mais elle revient. Et elle revient dès cette année. Ce qui fait qu'on ajoute avec la XFL 2 autres ligues. Et ben exactement, c'est un bassin que les joueurs les équipes de la Ligue de football vont piger. Et pour les Américains, c'est intéressant. Tu restes chez vous, tu joues chez vous, t'es payant en dollars américains.
Ben, peut-être que ça va relancer l'idée d'une ligue vraiment 100% canadienne aussi, là.
Exactement. Puis tu sais, il y a toujours des exceptions parce que ces ligues-là ont des plafonds salariaux. Les joueurs ne peuvent pas gagner plus qu'un certain montant. Puis c'est sûr que les carrières américains qui viennent jouer dans la Ligue canadienne de football, là, à coût de 700 000, 800 000 $ par année, ils n'auront pas de job comme ça, mis à part jouer dans la NFL. Donc, ces joueurs-là vont demeurer au Canada. Si tu vas aller chercher des carrières dignes de ce nom, ils vont venir au Canada, il n'y a pas de problème. Même chose avec certains receveurs de passe, certains porteurs de ballon. Les joueurs vedettes vont venir ici parce que les salaires vont être plus élevés. Mais pour ce qui est des joueurs qui font 75 000 Canadiens, lorsqu'ils retournent chez eux, c'est pas évident. Hein? T'es payé en américain et tout ça. Tandis que si tu peux faire 75 000 Américains chez vous, ben ça se peut que le choix soit un petit peu plus facile pour eux autres.
Hey Marc, avant de te laisser, en 30 secondes, qu'est-ce que tu as le goût de nous dire sur le Canadien 24 heures plus tard?
Ouf, on va devoir revoir le plan de match dans le sens que c'est pas le même hockey le même hockey qu'on a vu face aux Leafs de Toronto ni aux Jets de Winnipeg. Vegas, c'est pas pour rien là. Dans les 4 dernières années, une finale de la Coupe Stanley, 2 demi-finales. C'est une équipe aguerrie, une équipe de vétérans, une équipe rapide,
une équipe rouleau compresseur.
Exact, rouleau compresseur, tu as tout à fait raison. Puis tu sais, hier les 10-12 premières minutes de jeu là, le Canadien était très 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 impressionnant. C'était beau de les voir aller et Vegas là, lorsqu'ils ont mis la pédale au plancher, c'est pas une ou deux présences, c'est continuel. Et à un moment donné, c'est dur pour les défenseurs qui doivent jouer le nez dans la bévitrée pendant tout le match. Mmh. C'est dur pour tout le monde. Et même Carey Price, il était exceptionnel hier, LP. Ça a fini 4-1. Il faut dire que Fleury était très bon aussi, par contre.
Oui, très spectaculaire, effectivement. À suivre demain soir. Toujours un plaisir, Marc. On t'écoute demain matin.
Salut, LP.